n'a jamais vu quelqu'un nous mépriser comme ça. La plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, exactement. Si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la lune. Les gens qui sont là et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. S'il vous plaît. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire qu'on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Exactement. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Et je voudrais juste terminer comme ça. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne.
Deuxième temps de l'émission, place à l'actualité des idées. Notre invitée est philosophe, directrice de recherche au CNRS et s'intéresse à la philosophie et l'épistémologie sociale comme à l'impact des nouvelles technologies sur la formation du savoir. Elle est l'auteur de « Qu'est-ce que la confiance ?» C'était chez Vrin en 2008. Et « La réputation, qui dit quoi ?» de qui aux presses universitaires de France en 2015. Bonjour Gloria Origi.
Bonjour.
Alors on vient d'entendre la colère d'un gilet jaune, c'est une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, car elle résume bien le sentiment de ceux qui se sont retrouvés autour des ronds-points, plus que sur les Champs-Élysées. On y retrouve aussi beaucoup de choses présentes dans votre livre, Passion sociale, à la fois l'humiliation, la colère, une référence à la boîte de Pandore, c'est-à-dire à la mythologie. J'étais assez frappé à la fois à l'écoute de ce son et en vous lisant de voir à quel point on pouvait aussi faire référence à l'Antiquité et à la mythologie pour comprendre la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Vous avez donc dirigé aux presses universitaires de France Passion sociale, un dictionnaire qui est aussi une réflexion sur la place laissée par les sciences sociales à cette question des passions. Mais avant de rentrer dans des considérations épistémologiques qui sont aussi au cœur de votre livre, un mot sur ce qu'on vient d'entendre. En quoi les sciences sociales peuvent-elles nous permettre de comprendre ce qu'on sait et qu'on saisit immédiatement au moment des gilets jaunes, c'est-à-dire la colère, l'humiliation, l'indignation, tout ça, on connaît en quelque sorte, Gloria Origi.
Donc, si la personne qui parlait disait que Macron a ouvert la boîte de Pandore, on peut dire que nous aussi, dans cet ouvrage qui est collectif, donc je parle au nom aussi de mes collaborateurs, on a essayé d'ouvrir la boîte de Pandore, non pas pour faire sortir de nous-mêmes les passions, mais pour essayer de les analyser. Alors moi, je pratique un style de philosophie qui insiste sur l'importance de la philosophie au présent, dans notre présent. La philosophie n'est pas seulement de l'érudition, n'est pas seulement donner des bons conseils existentiels aux personnes, c'est de l'analyse conceptuelle et surtout, elle est en continuité avec les sciences sociales. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre ces mots qui envahissent notre présent et en essayer tout simplement d'en faire une analyse afin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout simplement qu'on agit parce que on est en colère par les mépris qui a été montré par Macron, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot colère? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot mépris?
Et en quoi c'est un moteur aussi de l'action sociale? On va y revenir, Gloria Origi, mais il faut peut-être signaler à nos auditeurs que ce livre s'ancre aujourd'hui dans une actualité assez importante de ce sujet, je veux dire, dans l'actualité intellectuelle. On a vu plusieurs livres, oui. La sociologue Eva Illouz a parlé, elle, des émotions, du marché des émotions. Récemment, le politiste Loïc Blondiaux, lui, parlait des émotions en politique. Frédéric Lordon, qui est philosophe et économiste, lui, préfère parler d'affect. Oui. Il y a une revue importante en histoire qui est publiée par les éditions Anna Mossad, Hervé Mazurel, Quentin Deluermos, Clémentine Vidal-Naquet, qui parle de sensibilité. C'est en tout cas le titre de cette revue. Vous avez choisi le terme de passion.
Oui, émotion, affect, sentiment, enfin j'aurais pu choisir un autre terme. Disons que les émotions, c'est un terme qui est peut-être plus scientifique, enfin, mais qui fait référence à un état individuel de la personne. Tandis que ce qui m'intéressait, c'est de comprendre. Bien sûr, les passions sont quelque chose qui démarre de notre individuel, mais elles envahissent l'espace collectif. Et donc, elles peuvent être revendiquées comme justification de l'action. Enfin, les gens revendiquent, cette personne qui parlait, enfin, revendique le ressentiment comme le moteur de son action, la cause de son action. Donc, ce n'est pas des émotions au niveau individuel. On ne va pas étudier les mouvements des gilets jaunes en faisant des IRM au cerveau des participants, mais on essaye de comprendre de quelle façon les passions dont ils parlent peuvent motiver leur action.
Pas d'IRM, ça c'est une petite pierre dans le jardin des cognitivistes, des sciences cognitives.
Moi je travaille dans un laboratoire très interdisciplinaire. Enfin, cet ouvrage d'ailleurs est résolument interdisciplinaire.
Et même transcourant, j'ai envie de dire, parce qu'on trouve des chercheurs comme Gérald Bronner, on trouve, vous êtes dedans également Gloria Origi. Bref, je vais pas faire la liste, il y a plus d'une centaine de contributions.
C'est très œcuménique.
Très œcuménique.
Oui. Et donc, bien sûr, enfin, je pense qu'il y a un niveau, il y a énormément de psychologues, de personnes qui viennent des sciences cognitives qui ont collaboré à ces projets. Et je pense, bien sûr, qu'il y a un niveau voilà, les passions, c'est quelque chose qui part de notre cerveau, enfin, et de notre corps, enfin. Et donc, bien sûr, il y a un niveau individuel et cognitif qu'on peut étudier, mais ça s'arrête pas là. Donc j'ai essayé de concerter un ouvrage qui allait dès la profondeur des sciences cognitives et jusqu'à l'espace social, enfin jusqu'à l'invasion des émotions dans l'espace social. Donc
il faut dire que les passions n'ont pas bonne presse, ou en tout cas n'avaient pas vraiment bonne presse jusqu'à très récemment, parce que souvent, voilà, on oppose la raison à la passion, évidemment, et il y a une vision un peu utilitariste, héritée notamment de la science économique, d'Adam Smith, qui pense l'homme comme un être raisonnable, qui fait des choix rationnels, le fameux homo economicus, pardon, qui était développé, et dont on voit toutes les limites, alors que les passions sont évidemment plutôt du côté de l'incontrôlable. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'on pouvait pas regarder la société, ou en tout cas, c'était impensable de regarder la société à travers les passions.
Si vous voulez, cet ouvrage s'insère dans une série d'ouvrages qui essayent d'apporter une critique à l'homme economicus. Enfin, on peut dire que marque de la modernité, c'est la canalisation des passions en une seule passion reine, qui est l'intérêt. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, on peut le mesurer. On a des modèles, on a des théories à partir de Adam Smith, enfin, de la richesse des nations, pour réduire, disons, les autres motivations à une seule motivation qui est l'intérêt. Et ça, c'est le noyau, disons, de l'homo economicus. Or, aujourd'hui, mouvement populiste, nationalisme, toute une série de manifestations de l'être humain, enfin, semble ne pas être saisi par une lecture réductrice, enfin. Donc, on n'est pas ensemble, une société ne se tient pas ensemble seulement par des contrats, qui sont rationnels et qui visent à l'intérêt des parties. Une société se tient ensemble aussi par des symboles qui relèvent de l'affectif, qui relèvent justement des passions. Et donc là, on est bien loin d'avoir une théorie organisée de toutes les passions. On serait, voilà, candidat au prix Nobel si on avait quelque chose de ce type. Mais enfin, c'est juste un catalogue, si vous voulez, des termes qui peuvent faire l'objet après, par les sciences sociales, enfin, d'un traitement plus formalisé, par exemple.
Et on va y venir évidemment en essayant de balayer un certain nombre d'entrées de ce dictionnaire, puisqu'il ne se présente pas forcément comme ça, mais c'est un peu comme un dictionnaire,
oui,
Gloria Origi. Mais peut-être encore un mot de l'histoire, de l'analyse des passions. Ça n'a rien de nouveau. On parlait évidemment de l'Antiquité tout à l'heure à propos de la mythologie. On peut parler des traités des passions dans l'Antiquité. On peut penser évidemment à Descartes plus récemment. Et aussi à Gustave Le Bon, à la psychologie des les foules. C'est-à-dire que il y a aussi évidemment une méfiance légitime vis-à-vis à une approche de la politique, des mouvements sociaux, de la vie en commun par le biais des passions.
Oui, le traité des passions est un grand classique de l'histoire de la philosophie. Il suffit de prendre Aristote, enfin, dans le troisième livre de la rhétorique, il présente un catalogue organisé des passions humaines. Et puis, bien sûr, Descartes, que vous avez cité, Spinoza, dans l'éthique, il consacre une grande partie de l'éthique à essayer de comprendre la géométrie des passions, comment non seulement une liste de passions comme nous on a fait, mais les organiser dans un traité et comprendre les interdépendances d'une passion à l'autre.
Oui, ça donnait la théorie des affects développée par Frédéric Lordon.
Pour moi aussi, c'est une façon de montrer comment la philosophie n'est pas seulement de l'érudition, on peut lire ces classiques à la lumière du présent en essayant de comprendre qu'est-ce que ces passions sont devenues dans notre présent, comment on les traite aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec les sciences sociales qui se sont développées dans les derniers siècles.
C'est le travail qu'a fait aussi un sociologue comme François Dubé, qui n'est pas présent dans votre ouvrage, enfin je ne crois pas, je ne l'ai pas Gloria Origi, mais qui a publié récemment à La République des Idées un livre justement sur la question des passions en lien avec la question du populisme. Je vous propose de l'écouter, il était l'invité des Matins en décembre 2018.
Dans le système de classe, les inégalités étaient structurées autour du travail, des revenus. Et d'une certaine façon, les gens vous disaient « je suis ouvrier et en tant qu'ouvrier, victime d'une injustice ». Mais ils ne ramenaient pas ça à sa situation individuelle. C'était un destin collectif auquel je participais. Tandis que là, je suis très frappé par le fait que les gens parlent toujours comme personne, toujours de manière très singulière. Il y a très peu de « nous » en fait. Dans cette parole, il y a surtout des « moi ». Je suis dans cette situation. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de relais. Moi, je suis absolument frappé par la disparition des partis. Les partis qu'on appelle populistes et qui auraient dû logiquement relayer ces colères pédalent dans le vide et font des assauts de démagogie quelquefois un peu indignes et qui ne sont pas efficaces. Donc vous avez aujourd'hui une expérience des inégalités qui n'a plus d'expression collective et donc on est dans la colère, la rage. Si je pouvais me permettre de citer mes propres travaux, j'avais étudié ça dans les banlieues dans les années 80 où j'expliquais que la rage remplaçait le conflit social et j'ai l'impression que le modèle des émeutes de banlieue d'une certaine manière, est en train de s'étendre.
Le sociologue François Dubé, qui a publié donc au Seuil « Le temps des passions tristes, inégalité et populisme », la question de la rage et la question aussi de l'encadrement de cette rage, l'encadrement politique par une vision du monde, de la société, qui était la vision de classe marxiste qui a dominé, en tout cas qui était importante jusque évidemment la fin des années 80, Gloria Origi.
Un livre que je vais acheter tout de suite parce que en fait j'avoue que je n'ai pas lu ces livres. J'aurais dû le lire avant de faire sortir les livres, les miennes enfin. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. D'abord, un parti politique parce qu'il essaye d'expliquer un mouvement qui n'a pas de parti. Un parti politique organise des croyances. Un mouvement organise des passions. Donc il y a une différence qui est importante.
C'est comme ça que vous analysez le glissement parce que c'est vrai que récemment on a vu disparaître des partis politiques. Exactement. Au profit de mouvements, que ce soit
Podemos,
la France insoumise,
les
en
indignés,
France, oui, bien sûr,
etc. Les mouvements sociaux organisent des passions. Les partis politiques organisent des idéologies, des croyances, et donc la référence aussi qu'il fait à la subjectivité, au fait que les gens parlent pour leur comme personne et pas comme mouvement, c'est lié à cette différence profonde. Enfin, et ça explique aussi pourquoi, d'un point de vue vraiment épistémologique, explique aussi pourquoi les mouvements n'ont pas de représentation. Les partis politiques sont basés sur la représentation. Enfin, nous, on donne à des personnes le devoir de nous représenter. Un mouvement n'est pas comme ça. On agit en première personne.
Qu'est-ce que ça fait à la politique, Gloria Origi? Puisque on l'entend dans l'intervention de François Dubé, il dit c'est la disparition du nous au profit du oui. jeu. C'est un thème qui est très présent aussi récemment. Je pense au livre récent de Tristan Garcia sur le sujet. Vous avez écrit l'article Confiance dans l'article dans ce livre Passion sociale paru aux Presses universitaires de France, et ça renvoie complètement à ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire vous expliquez que la confiance c'est une façon d'abandonner une partie de son pouvoir à quelqu'un oui. d'autre. Et là, c'est véritablement ce qui est en jeu dans ce que dit François Dubé. C'est-à-dire, il n'y a plus de corps intermédiaires, il n'y a plus de gens à qui on se confie et à qui on fait confiance.
Exactement. Et donc, on se réfugie dans la subjectivité. Et il fait référence aussi à l'inégalité qui est très importante. Disons, moi, je pense que le ressurgir des passions a beaucoup à faire avec les sociétés qui deviennent inégalitaires. Enfin, c'est une trahison de la démocratie. Enfin, la démocratie ne arrive plus à contenir les inégalités. Et les passions agissent un peu comme un sociomètre, enfin, comme nous permettent d'évaluer d'une façon, disons, plus rapide que la raison, où nous sommes par rapport aux autres. Et donc, c'est clair, il est clair que dans des sociétés où les inégalités s'accroissent, les passions sont plus présentes, enfin, parce que elles ont ce rôle cognitif-là, ce rôle informationnel, de nous informer et notre position, enfin, par rapport aux autres. Et donc, en fait, c'est ce qui fait sortir la boîte, enfin, ça fait ouvrir la boîte de Pandora lorsque les sociétés deviennent inégalitaires.
Il y a donc un lien, selon vous, qui est direct entre la montée des inégalités et la place comprises les passions dans la politique.
Oui, c'est vraiment le type de mouvement structurel que j'essaie d'éclairer. C'est un peu une intuition, mais c'est exactement ce qui m'intéresse de comprendre. Enfin,
c'est une intuition que vous partagez avec un politiste que j'ai déjà cité, qui est Loïc Blondiaux, qui avait publié aussi un livre sur les émotions politiques. Je vous propose de l'écouter.
Cette fatigue démocratique, elle se traduit de deux façons très très différentes. Il y a une partie de la population, et en particulier chez les jeunes, qui veulent plus de démocratie, c'est-à-dire qui veulent participer, qui veulent contribuer, qui ont de plus en plus de mal avec les logiques de représentation et de délégation. Donc on a cette demande d'approfondissement de la démocratie, et puis on a une partie de la population qui se dit, mais si la démocratie fonctionne comme ça, c'est qu'il y a un problème avec la démocratie, et il faut peut-être envisager des formes un peu plus autoritaires. On voit dans les enquêtes du Cevipof, plus de 40% des gens qui approuvent l'idée selon laquelle il faudrait désigner un chef qui ne se préoccupe pas du Parlement ou des partis pour prendre des décisions. Donc il y a une tentation autoritaire. Il y a une demande de plus de démocratie d'une part et une tentation autoritaire d'autre part qui traverse peut-être même quelquefois les mêmes individus et qui sont au cœur du problème actuel.
Les passions sont du règne, du domaine du paradoxal. On l'entend dans cette intervention de Loïc Blondiaux, Gloria Origi. Puisqu'en fait, tout le livre qui a, comment dire, décrit un certain nombre de passions essaye aussi de comprendre les mouvements populistes, les craintes millénaristes, le rôle de l'indignation aujourd'hui face à l'injustice, le ressentiment social. Bref, ce sont des actes politiques, des actes sociaux qui sont compris à la lumière de ces passions.
Ah oui, bien sûr. Enfin, je vais sortir de l'émission avec une liste de livres à lire parce que et donc, mais prenez des passions qui sont moins immédiatement visibles, comme par exemple la célébrité. Alors là aussi, il y a une très bonne entrée écrite par la sociologue Nathalie Hennig sur la célébrité. Et en fait, la célébrité vous projette très en haut. Enfin, par rapport à vos mérites. Enfin, c'est une grandeur qui n'est pas linéaire, d'une certaine façon. Si vous êtes célèbre, vous allez être de plus en plus célèbre. Donc, par exemple, aujourd'hui, la politique est aussi un milieu de célébrité, enfin, et de hypervisibilité. Et ça suscite une distance. Donc, la distance dont les Gilets jaunes, par exemple, parlent, le fait que le pouvoir est distant, ça peut être tout simplement un effet secondaire d'une excessive visibilité. Parce que la visibilité crée de la distance. La distance crée un ressentiment. Donc, vous voyez, enfin, les passions s'organisent, se concertent, deviennent, se lient l'une à l'autre d'une façon qu'on peut étudier comme mécanisme. Enfin, moi, je pense que la philosophie sert pour l'analyse conceptuelle, les sciences sociales, pour identifier des mécanismes. Donc, il faut travailler ensemble pour essayer de comprendre comment ces passions se lient ensemble.
Comment vous avez choisi justement les entrées, les passions que vous alliez traiter? Parce que là, vous venez de parler de la célébrité, ça n'a rien d'évident. C'est-à-dire on n'associe pas forcément la célébrité à une passion, Gloria Origi.
On a essayé de... Enfin, on a, parce que c'est un choix que j'ai fait avec le comité éditorial. Et on a essayé de reprendre, disons, les passions classiques, enfin les plus basiques, et puis d'ajouter un certain nombre d'entrées qui nous semblaient décrire l'ère du présent. Enfin, donc il y a des passions qui sont moins évidentes, comme la passion du partage, le partage par exemple d'informations sur Internet, la passion d'entreprendre, la passion pour la célébrité, la passion pour la réputation, disons toutes des passions qui la misogynie, la question de le masculinisme, enfin, qui nous semblait, disons, représenter mieux le monde où on vit aujourd'hui, enfin. Donc, on ne pouvait pas refaire un traité des passions comme celui de Descartes, enfin, le monde change. Et ceux qui. Bien sûr, vous avez raison, enfin, c'est des entrées qui pourraient aussi être présentes, certaines, dans un dictionnaire, par exemple, qui s'occupe des valeurs. C'est ce qu'on a demandé à nos contributeurs, c'était d'aborder ces questions sous la lumière des passions, enfin, de voir comment ces termes pouvaient décrire enfin, des états passionnés.
France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Love's gonna get you killed, but pride's gonna be the death of you and you and me and you and you and you and me and you and you and you and me and you and you and you and me.
New worldly possessions, flesh making, spirit breaking. Which one would you listen?
The better part, the human heart. You love them or dissect them. Happiness or flashiness? How do you serve the question? See, in the perfect world, I would be perfect world. I don't trust people enough beyond their surface world. I don't love people enough to put my faith in man. I put my faith in these lyrics, hoping I make a band. I understand I ain't perfect, I probably won't come around. This time I might put you down, last time I ain't give a fuck. I still feel the same now, my feelings might go numb. You're dealing with cold though. I'm willing to give up a leg and arm and show empathy from. Pity parties and functions are you and yours. A perfect world, you probably live another 24. I can't fake humble just cause your ass is insecure.
I can't fake humble just cause your ass is insecure.
Pride, la fierté de Kendrick Lamar, qui a consacré tout un album aux émotions, justement, Gloria Origi.
J'ai acheté l'album aussi.
Et bah oui, il faut, c'est un excellent album, celui de Kendrick Lamar. Donc, vous dirigez Gloria Origi, Passion sociale, un livre paru aux presses universitaires de France qui fait justement le pari d'aborder les passions comme un moteur de l'action sociale. C'est aussi une façon pour vous, Gloria Origi, de vous affranchir, en tout cas d'affranchir les sciences sociales et la sociologie en particulier, d'une certaine forme de déterminisme. On sait qu'il y a un débat important aujourd'hui au sein de la sociologie entre une vision analytique, une vision plus déterministe de la sociologie, même si c'est un débat qui est souvent très caricatural et caricaturé quand on en parle de l'extérieur. Il est beaucoup plus fin et évidemment complexe de l'intérieur de ces sciences, de cette science de la sociologie. Mais c'est vrai que on voit dans cette dans cet intérêt pour les passions et donc des passions sociales, de prendre au sérieux finalement la revendication par les acteurs des passions qui les animent dans leur action, une façon de s'affranchir un peu du déterminisme.
Oui, en fait, c'est pas un livre uniquement de sociologie, même s'il y a beaucoup de sociologues qui ont participé. Moi, je dirais que c'est plutôt un livre de philosophie critique, enfin, et c'est ce que ça veut dire, que justement, ça ne m'intéressait pas tout simplement de décrire de l'extérieur que les mécanismes qui font bouger les gens, mais de donner aussi la place au jugement et aux revendications en termes affectifs, enfin, des personnes. Enfin, les passions sont revendiquées comme action. On a entendu tout à l'heure du mouvement des Gilets jaunes dire, enfin, ce qui me motive, c'est le ressentiment pour le mépris du pouvoir vis-à-vis de moi. Enfin, je pense que justement, enfin, mettre sur la table toute cette pléthore de concepts, enfin, ça permet, oui, d'une certaine façon, de ouvrir des questions et se libérer un peu d'un déterminisme scientifique qui n'arrive pas à saisir justement l'aspect des justifications, l'effet que les gens revendiquent les passions comme justification.
Alors justement, vous avez signé l'article humiliation, par exemple, ouais, dans ces passions sociales, Gloria Origi. Vous parlez de l'humiliation comme, je vous cite, d'une passion statutaire. La passion statutaire, ouais, par excellence, c'est-à-dire qu'elle implique un triangle composé de la personne qui humilie, de la personne qui se sent humiliée et d'un observateur. Et c'est en, ouais, ça que c'est une passion sociale.
Ah oui, c'est une des passions statutaires par excellence. Ça veut dire que l'humiliation, ça veut dire rabaisser quelqu'un, et vouloir rabaisser quelqu'un. Donc on se sent rabaissé. À différence quand même de la honte, par exemple l'humiliation, on peut subir une humiliation sans se sentir humilié. Et au lieu de provoquer la honte, si on se sent pas humilié, on peut l'humiliation peut provoquer de la rage, par exemple, de la colère, et donc nous faire réagir avec de la colère. Mais sûrement, c'est une passion centrale. Enfin, je pense que les gens se sentent souvent humilié. Je conclus l'entrée en disant que justement une société décente, comme dit le philosophe Avishai Margalit, c'est une société qui évite toute pratique d'humiliation vis-à-vis de ses citoyens. Bien sûr, parfois l'humiliation est difficile à détecter. Enfin, les gens peuvent se sentir humiliés par des comportements qui ne voulaient pas être humiliants, par exemple. Et donc, par exemple, si quelqu'un fait une remarque sur mon accent affreux italien, je peux me sentir humilié, même si la personne le faisait d'une façon gentille, sans vouloir m'humilier.
Accent affreux italien, ça va pas du tout dans la même phrase, Gloria Origi. Vous parlez de l'humiliation, et puisque j'ai entrepris d'abonder votre bibliothèque, il y avait un livre de Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales, sur le, oui, temps des humiliés, oui, qui parlait justement du rôle, oui, de l'humiliation dans les relations internationales. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit à quel point ces passions ont pris une importance fondamentale, c'est-à-dire, oui, qu'elles vont jusqu'à déterminer le rapport qu'un certain nombre de pays, notamment dans les espaces postcoloniaux, il y a une entrée postcoloniale d'ailleurs, oui, dans votre dictionnaire des passions sociales, Gloria Origi, comment dans ces espaces postcoloniaux, l'humiliation a pu déterminer un certain rapport entre les États.
Oui, bien sûr, les passions postcoloniales, c'est des passions qui renvoie à des enjeux identitaires, et l'humiliation qui est intrinsèque avec le postcolonialisme, c'est qu'il faut, disons, pour faire surgir de nouvelles identités, enfin, il faut déconstruire les identités par lesquelles on avait été construit par les autres. Donc, ça crée une situation vraiment d'humiliation, parce que disons, dans des pays qui sont sortis de la domination coloniale, il s'agit de déconstruire ce qui avait été construit par des autres. Les personnes se sentaient humiliées parce qu'elles étaient construites dans leur catégorisation, enfin, par les dominants.
Il y a donc des passions, on l'a compris, statutaires, il y a des passions qui sont plus de l'ordre politique, comme celles que vous venez de décrire, il y a des passions morales aussi, des émotions morales, le remords, le regret, par exemple, Gloria Origi, il joue un rôle aussi dans, comment dire, pour actionner les mouvements sociaux, enfin en tout cas la vie en société.
Oui, l'indignation, par exemple, c'est une passion morale aussi, parce que c'est une, si vous voulez, c'est une passion généreuse. Enfin, ça veut dire qu'on peut s'indigner, à cause de ce qui est fait à d'autres personnes et pas à nous. Et donc, bien sûr, il y a une dimension morale des passions. En fait, il y a une forte dimension morale. Ça veut dire que les passions sont parfois l'accès le plus direct aux valeurs et aux normes sociales qu'une société partage. Enfin, ça va plus vite que la raison pour comprendre comment une société s'organise autour de certaines valeurs et autour de certaines normes sociales.
On retrouve là les sciences cognitives, hein, puisque c'est un des apports justement importants des sciences cognitives pour comprendre la mémoire, pour comprendre l'action, c'est à quel point les émotions dans notre cerveau jouent un rôle important, même pour des comportements qu'on pourrait penser rationnels.
Et disons qu'on peut aussi mentionner que dans les sciences cognitives, dans l'étude des sciences cognitives, il y a eu un tournant, disons, émotionnel. Enfin, aujourd'hui, les émotions sont justement prises en considération beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Enfin, ils sont un sujet d'études cognitives. Et là, il y a quelques entrées qui, justement, essayent de reconstruire ce que... Il y a une entrée, par exemple, sur l'épistémologie des émotions qui se base sur les études cognitives qui existent aujourd'hui.
Oui, on voit un mouvement qui tente de réconcilier justement sciences sociales et sciences cognitives. Oui, citée tout à l'heure, la revue Sensibilité. On recevait récemment Hervé Mazurel, qui a dirigé le dernier numéro de la revue Sensibilité, qui était consacré justement à cette question de la réconciliation. Je propose de l'écouter, Gloria Origi.
Quand on travaille sur les émotions, dans le champ des études sur l'émotion, il y a vraiment un grand sillon, un grand partage entre des gens qui s'ignorent par profession, hein, les universalistes, les neuroscientifiques, les psychologues cognitivistes qui, a priori, valorisent l'idée que les émotions sont universelles, stables, fixées par l'organisme, en quelque sorte qu'elles sont des réponses spontanées, et puis le camp des constructivistes qui considèrent que les émotions ne sont pas innées, mais apprises, acquises, qu'il y a une socialisation des émotions chez les enfants, qu'elles sont construites, voilà, socialement et culturellement, et qu'il peut y avoir une histoire des émotions, que certaines émotions émergent historiquement quand d'autres s'effacent, hein, quitte à s'évanouir encore par la suite. Hein, et donc il y a vraiment deux camps qu'on a du mal à faire communiquer. Et pourtant, il y a des passerelles, des ponts suspendus, on va dire, non pas avec toutes les neurosciences, mais avec certaines neurosciences qui aujourd'hui inclinent dans un autre sens.
Passerelle et pont suspendu, ce que nous dit l'historien Hervé Mazurel à propos du rapport entre sciences sociales et neurosciences, Gloria Origi. Vous êtes évidemment d'accord avec lui.
Je pourrais dire que ce livre est une passerelle, justement. C'est un peu ça le sens de ce livre. Enfin, bien sûr...
Pour créer une nouvelle théorie de l'action humaine?
Bien sûr, les émotions sont ancrées dans la nature humaine, enfin, mais quand même, elles envahissent l'espace social. Et bien sûr, les émotions sont aussi... on peut avoir une continuité, sont aussi construites culturellement. Enfin, les deux ne sont pas en opposition. Enfin, il y a une base, un noyau qui est basé sur nos instincts et sur notre cognition et sur notre nature, disons. Et après, elles font partie elles sont présentes dans l'espace social et donc une grande partie est construite culturellement. Enfin, les cultures, il y a des cultures où certaines émotions sont légitimes et elles sont valorisées et d'autres cultures où elles le sont moins, où des émotions différentes sont valorisées.
Mais même si on pourrait assister à une forme d'universalisation, de mondialisation des émotions, à travers notamment les réseaux sociaux, Gloria, vous avez étudié notamment dans votre livre La réputation, qui dit quoi de qui, le rôle et la fonction des réseaux sociaux, des commentaires, des likes, c'est quelque chose dont on parle beaucoup évidemment aujourd'hui. Est-ce que ça produit une forme de mondialisation aussi des passions, des émotions?
Les réseaux sociaux sont un terrain typiquement passionnelle, la réponse rapide, et donc bien sûr permettent de faire circuler des émotions avec une vitesse qu'on ne connaissait pas, et donc de partager aussi les émotions. Donc on se sent légitimé à agir sur l'empreinte de certaines émotions. On se sent plus légitimé si on les partage, si on se rend compte qu'on est dans un espace émotionnel où ces émotions sont légitimes et sont considérées.
Merci beaucoup Gloria Origi. Passion sociale, c'est aux presses universitaires de France, un livre à lire et à mettre dans toutes les bonnes bibliothèques avec tous ceux qu'on a cités au cours de cette émission. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, Camille Fouchard et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table Idée, Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, avec l'aide précieuse d'Antoine Suzarelli et de Mathilde Tonfourcade. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig, à la technique Emmanuel Morse d'Incan. Il me reste à vous signaler que vous pouvez vous inscrire pour aller écouter l'enregistrement de Gatsby le Magnifique qui avait été donné à Avignon et qui, le 2 mai à 20h30, sera représenté au studio 104 de la Maison de la Radio, le 2 et le 3 mai même. Vous avez deux opportunités d'aller voir cette magnifique interprétation de Gatsby par Sofiane.